Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Mercredi prochain sortira en salle le nouveau film de Morten Tildum, Imitation Game, qui raconte les efforts d'un cryptologue britannique, Alan Turing, pour percer le code secret des Allemands. De quoi inspirer Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. La machine à coder des Allemands pendant la guerre s'appelait Enigma. Eh bien, je vais vous raconter ça dans un instant. Après quoi, en compagnie de François Kersaudy, nous en profiterons pour célébrer ses 50 ans de la mort du vieux lion. Winston Churchill.
Et à propos de Churchill, Christelle, qui nous écoute depuis l'Allemagne, nous apprend qu'il a été enterré le jour de sa naissance, le samedi 30 janvier 1965.
D'ores et déjà, chère Christelle, bon anniversaire à vous. Et puis un salut très amical à tous nos auditeurs qui nous écoutent de l'autre côté du Rhin. Je sais qu'Hélène également souhaitait qu'on parle d'Imitation Game. Elle va être contente.
Et oui, vous terminerez l'émission en répondant à la question de Yann sur les origines des emblèmes du Parti communiste.
La faucille et le marteau. Pour le moment, je vous propose de nous pencher sérieusement sur le cas de cette machine à coder les messages, machine mise au point par les ingénieurs allemands.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Il existe en plein cœur de Londres un endroit extraordinaire, passionnant à visiter, j'ai eu l'occasion de vous le recommander chaudement déjà, c'était le bunker de guerre du Premier ministre Churchill pendant le dernier conflit mondial. Alors, juste à côté, depuis quelques années, toujours en sous-sol, il y a le Churchill Museum, qui d'ailleurs est un modèle du genre, un endroit tout à fait passionnant. Et puis donc, ces fameuses salles du cabinet secret de Churchill, hein, ces cabinet war rooms, qui sont le centre de commandement du gouvernement britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. On est dans le quartier de Whitehall, hein, à proximité du Parlement, de Buckingham, du 10 Downing Street. On est précisément sur la King Charles Street. Et donc il faut descendre, et même descendre assez en profondeur pour découvrir ces salles extraordinaires où rien n'a changé. Tout est exactement comme lorsque Churchill est parti. Alors, comme toujours, les Britanniques sont particulièrement doués dans ce domaine. Je pense qu'il y a eu des petits changements depuis et qu'on s'est arrangé pour tout remettre en l'état. Mais vous avez vraiment l'impression qu'il est parti la veille. Il y a encore le cigare dans le cendrier. Vous savez, tous les téléphones. Alors c'est amusant parce que vous avez les téléphones qui sont verts, d'autres blancs, rouges, etc. en fonction des interlocuteurs. La salle des cartes utilisée par l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine. C'est là donc qu'on trouve toutes ces espèces de téléphones, ces cartes au mur, etc. Vous avez bien sûr des cartes qui changent à mesure des évolutions de la guerre. Et puis, le cabinet room en tant que tel qui sert à réunir les conseils de guerre et la fameuse chambre bureau de Churchill. C'est depuis cette pièce qu'il adressait ses célèbres messages radio diffusés. On en entendra un tout à l'heure. Dans ces salles se trouvaient des hommes et des femmes qui travaillaient pour le bureau des renseignements, pour l'Intelligence Service. Et c'est là que, pendant la Seconde Guerre mondiale, arrivaient les fameux messages codés. On l'a dit, on a même eu l'occasion de le dire souvent depuis 70 ans, mais c'est certain que cette Seconde Guerre mondiale a d'abord été une guerre du renseignement. Les codes, les contre-codes, la capacité de percer à jour les codes secrets ennemis ont été au cœur même des opérations de cette Seconde Guerre mondiale. Parmi les spécialistes les plus célèbres, parmi ceux qui peuvent figurer au nombre des pères de l'intelligence artificielle, il y a un certain Alan Turing. On en parle beaucoup depuis quelque temps parce qu'il est le héros de ce nouveau film Imitation Game qui sera en salle mercredi prochain. Alan Matheson Turing a été repéré par les services secrets britanniques dès son retour des États-Unis en 38. On va voir ce qu'il était parti faire aux États-Unis. Il effectue un stage au QG d'une organisation gouvernementale, le centre opérationnel de l'École nationale britannique des codes secrets. Tout pendant ce temps-là, il poursuit ses cours à Cambridge. Et juste au lendemain de la déclaration de guerre, déclaration de la Grande-Bretagne à l'Allemagne, ce qu'on a parfois tendance à oublier, donc dès le 4 septembre 1900, 1939, l'école gouvernementale du code et du chiffre est évacuée. elle quitte Londres et on l'envoie sur le site de Bletchley Park. On est là à 80 km de Londres. Il faut imaginer un grand manoir britannique, hein, comme on en voit dans Barnaby ou dans Hercule Poirot. Vous voyez, c'est espèce de, avec la grande pelouse, etc. On peut travailler là dans la quiétude et dans la discrétion, bien entendu. Andrew Hodges dans Alan Turing, il a écrit un livre sur le génie qui a décrypté les codes secrets nazis et inventé l'ordinateur, ce qui n'est pas négligeable. Andrew Hodges nous dit « Bletchley était une petite ville d'une tristesse ordinaire, mais elle se situait au centre géométrique de l'Angleterre intellectuelle, là où la ligne de chemin de fer de Londres bifurquait pour Oxford ou Cambridge. Le manoir se dressait au nord-ouest de la jonction ferroviaire, sur une petite colline surplombée par une vieille église et qui donnait sur les toits de tuiles de la vallée. » Je vous dis, il manquait que Miss Marple dans le paysage. À Bletchley Park, on retrouve presque tous les spécialistes britanniques du renseignement, enfin du déchiffrement surtout. Il y a des forentèmes, vous imaginez, hein, des grands cerveaux, des champions d'échecs, des mathématiciens de haute volée, etc. On a construit toutes sortes de préfabriqués et des huttes autour du manoir. Bref, c'est un petit peu une sorte de Silicon Valley à l'anglaise qu'on a installé là. Il faut les voir qui, d'un baraquement à l'autre, circulent à vélo, parfois avec les masques à gaz, quand il y a des alertes, bien entendu. Et au sein de cette équipe, il y en a un qui s'impose, c'est notre Alan Turing. Alors qui est-il ? Il était né en 1912 à Londres. On peut dire que d'emblée c'est un prodige. Il a appris à lire en moins d'un mois lorsqu'il était enfant. Il avait la manie d'ailleurs de s'arrêter sous les lampadaires pour déchiffrer le numéro de série. Ça ferait plutôt penser à l'inspecteur Monk. Oui. On est dans ce genre d'esprit un peu tourmenté sans doute. Un enfant qui n'est vraiment pas heureux, hein, qui est très solitaire comme beaucoup de ses surdoués et qui trompe l'ennui en passant des heures à lire tous les livres qui lui tombent sous la main. Il s'intéresse à toutes les disciplines et notamment, comme il arrive souvent de ces esprits hyper développés, il va s'intéresser aux questions de code, de déchiffrement, de combinaison et de combinatoire. Vous voyez, à 15 ans, il montre à son prof de mathématiques la suite infinie d'une fonction tangentielle. Ne me demandez pas de quoi il s'agit, j'en serais bien incapable. Ça me rappelle pourtant des vieux souvenirs, mais enfin vraiment très vieux. Et il va être reçu au King's College de Cambridge. S'il vous plaît, il est reçu premier. Il a 24 ans. Il n'a même pas encore son doctorat de mathématiques, quand il répond à une question très importante. Peut-on dire si un énoncé est vrai ou faux ? Et pour cela, il invite une machine capable de déterminer si une proposition mathématique est ou non démontrable. Vous avouez que c'est complètement incroyable. Entre parenthèses, on est là à l'origine même de ce qu'on va appeler plus tard un ordinateur. On est dans les années 30. Pour l'instant, les mathématiciens s'intéressent pas vraiment encore à ce type d'avancée. Turing va donc partir pour les États-Unis où on s'intéresse beaucoup plus à ces questions-là. Le voilà à Princeton, où on fait des recherches très importantes à l'époque. Et puis, il reviendra donc en Grande-Bretagne. Il regagne Cambridge. Il suit des cours de maths et de philosophie. Il en donne aussi. À ce moment-là, le péril de la guerre se précise et c'est là que Turing arrive donc un peu comme Zorro pour percer le mystère Enigma. Il est au sein de cette école gouvernementale de Bletchley Park.
De la bande originale du film Imitation Game composé par Alexandre Desplat, un film Europe 1. Revenons avec vous Franck Ferrand à Alan Turing et à sa machine Enigma.
Alors voilà, la machine, ça n'est pas la sienne, c'est la machine des Allemands. C'est une machine qui a servi dès la Première Guerre mondiale à coder les messages. Cette machine, elle est perfectionnée, elle trouve sa forme et son nom d'Enigma au début des années 1920. On s'en sert surtout au départ dans le secteur privé, il faut dire, hein. Ça sert pour crypter des messages entre les banques ou entre des grandes compagnies commerciales, vous voyez. Et puis, cette machine peu à peu, elle va être récupérée par l'armée allemande et elle va permettre aux militaires allemands de coder leur communication. Alors à quoi est-ce que ça ressemble, Enigma ? Eh bien, ça ressemble à imaginez une grosse machine à écrire, tout simplement. Une machine à écrire électrique, ce qui n'était pas le cas des machines à écrire à l'époque. L'opérateur est face à son clavier, il tape un texte en clair. Et de l'autre côté, si je puis dire, le texte ressort complètement crypté sur un tableau lumineux qui compte 26 lampes correspondant chacune à une lettre de l'alphabet. L'opérateur peut transmettre à partir de là son code par radio, en morse, et un seul opérateur qui a la même machine peut faire exactement la manœuvre inverse. C'est-à-dire que si vous possédez deux machines Enigma, chacune à un côté de la ligne, il est très facile de coder et de décoder un message. Ça se fait presque en temps réel. Évidemment, si vous n'avez pas la machine, si vous ne possédez pas l'extraordinaire combinatoire qui constitue le cœur même de cette machine, alors là, vous recevez des messages qui n'ont évidemment ni queue ni tête. Tout au long des années 30, on ne va cesser de perfectionner Enigma, qui offrira en 1939 plus de 150 milliards de combinaisons possibles. Autant dire que c'est vraiment une machine indécodable, a priori. Dès la mise en service d'Enigma, inutile de vous dire que les divers gouvernements concernés, notamment par les opérations militaires allemandes, vont essayer d'en percer le mystère. Les Polonais, les tout premiers. La Pologne se sait menacée par l'Allemagne. Elle recrute des mathématiciens, dont un certain Marian Rejewski. Et avec l'aide d'ailleurs de mathématiciens français, et surtout avec l'aide des services secrets français, ils vont récupérer un certain nombre de plans de la machine Enigma et vont essayer de les décrypter, ces plans, de les comprendre. Les Polonais vont inventer une machine qu'on surnomme la bombe, parce que quand on s'en sert, elle fait tic-tac, tic-tac, donc on dirait une bombe à retardement. Et elle va, cette bombe, parvenir à découvrir un certain nombre des failles de la machine Enigma. Sauf que, évidemment, en face, c'est toujours cette espèce de problématique de la lance et du bouclier. Hein. À mesure qu'on est en train de découvrir le code d'Enigma, eh bien, en face, on perfectionne la machine. À la fin de décembre 1938... C'est là que la machine se met à être capable de fabriquer des milliards et des milliards de combinaisons. Pour les Polonais, il faut donc se remettre à l'ouvrage. Au printemps 39, il faut tout arrêter parce que c'est l'invasion de la Pologne qui menace. Il faut donc s'exiler à l'étranger et notamment en Grande-Bretagne. C'est ce que va faire le fameux Rejewski. Et lorsque la guerre commence, les Polonais travaillent déjà depuis 7 ans sur Enigma. C'est dire s'ils vont pouvoir mettre au courant leurs confrères britanniques et notamment le fameux Alan Turing. Au début, pour Turing, c'est quand même très très difficile. Il faut pour contrer la machine allemande, il faut une machine britannique qui est extrêmement coûteuse à fabriquer. C'est une machine puissante. Quand je dis puissante, ça veut dire à l'époque, parce que les ordinateurs sont tout à fait balbutiants, ça veut dire qu'elle occupe le volume d'une pièce entière. Vous imaginez un peu tout ça est très spectaculaire. Alan Turing travaille, on a envie de dire, il suit sa voie, de façon peut-être un peu autiste, il faut bien le dire. On ne peut pas dire que ses relations avec ses collègues soient excellentes, hein, c'est ce qu'on voit bien dans le film Imitation Game. Et puis, début 40, il se met donc à faire construire ces fameuses machines, qu'on appelle les bombes, qui occupent, je vous dis, une pièce entière. En 1940, il y en a 16 de ces bombes quand même qui sont fabriquées. Les messages transmis par l'armée allemande sont interceptés par des stations d'écoute sur les côtes anglaises, ce qu'on les appelle les stations Y. Et ces stations, lorsqu'elles ont intercepté un message, l'envoient directement à Bletchley Park, bien entendu, pour qu'on puisse le décrypter. Tous les jours, les codes et les messages changent. C'est ça qui est évidemment très difficile. Quand je dis tous les jours, et même dans certains cas, plusieurs fois par jour. C'est donc une espèce de course contre la montre. La moindre erreur est fatale et quand minuit arrive, il faut tout recommencer parce que le code en face a changé, bien entendu. Et on voit de nouveaux messages cryptés qui affluent. Du coup, au bout de quelques mois, les autorités britanniques commencent à s'interroger sur l'utilité de ces machines. Encore une fois, c'est une espèce de course, hein, d'escalade, on peut dire, entre les deux camps. Du côté allemand, on ne cesse de perfectionner la machine Enigma pour rendre ces codifications absolument indéchiffrables. Et puis en face, du côté britannique, eh bien, évidemment, il faut multiplier les combinaisons pour être capable, en temps réel, de déchiffrer ce que fait la machine allemande. Ça paraît complètement impensable. Les Britanniques finissent par se dire que tout ça coûte vraiment très cher et c'est très inefficace. Dans le film, on voit même des hommes du ministère de l'Intérieur britannique qui vont tenter de détruire une bombe, hein, la fameuse machine de décryptage. Turing lui-même d'ailleurs va perdre son poste. Finalement, il est sauvé par ses collègues qui demandent un sursis de 6 mois. Et dès le mois d'août 1940, la bombe va pouvoir trouver une clé d'énigma en moins d'une heure et bientôt, parce que les progrès sont exponentiels, bientôt en quelques minutes seulement. Alan Turing à ce moment-là touche au but. Ce qui veut dire qu'un antimilitariste de moins de 30 ans qui fait du vélo en portant un masque à gaz est en train, à lui tout seul, de vaincre Adolf Hitler.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission et nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un court instant sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur Alan Turing et son décryptage de la machine Enigma.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous Franck Ferrand au cryptologue Alan Turing et à la machine Enigma.
Alors il faut imaginer hein, tous ces savants britanniques, tous ces savants cosinus un peu qui sont là et qui néanmoins, grâce à Alan Turing essentiellement, vont parvenir à casser Enigma. Plus de 3000 messages nazis sont ainsi décodés chaque jour, ce qui permet de suivre très précisément la progression des Allemands. Ça change complètement les données de la guerre, ça évidemment. À partir du moment où les Allemands sont convaincus de communiquer en toute tranquillité, alors qu'en fait on lit à livre ouvert dans leurs messages du côté de Londres, évidemment ça change tout. Turing et son équipe travaillent nuit et jour et les messages décryptés sont immédiatement copiés, triés et les plus importants, les plus stratégiques sont envoyés à l'Operation Intelligence Center qui ensuite en fait bon usage. Bien entendu, tous les messages qui proviennent de la source Enigma sont codés ultra, ce qui est, quand on voit un message ultra arriver, évidemment, on sait que c'est d'une grande importance. La chance de Turing et de son équipe, c'est que l'Allemagne était tellement persuadée d'avoir fabriqué la machine à coder parfaite qu'elle a arrêté de sophistiquer Enigma, sauf dans la marine. Et d'ailleurs, c'est parce que les messages de la marine allemande vont longtemps continuer à être cryptés qu'on va voir de tels succès, de telles réussites du côté des batailles navales allemandes. Turing a apporté, c'est Churchill qui le dit, je le cite, la contribution individuelle la plus importante à la victoire des alliés face aux nazis. C'est tout à fait extraordinaire, voilà un hommage quand même. Et même quand les clés ne sont pas trouvées, Bletchley Park se débrouille pour décrypter Enigma. Lors de la bataille de l'Atlantique, des opérations visant à capturer l'Enigma naval et ses livres de code sont par ailleurs mis au point, puisque c'est le seul point qui continue de résister. Mais au moins, on essaie de mettre le grappin dessus. En 1943, la situation va donc s'inverser. La flotte de sous-marins allemands, qui jusque-là était très puissante, presque invincible, recule. Elle est détruite progressivement par les alliés. Et l'on peut dire que si Turing et son équipe n'avaient pas décrypté aussi l'Enigma naval, eh bien, les Américains auraient débarqué probablement plusieurs mois plus tard, peut-être même un an après. L'aide apportée par Ultra pour les opérations de débarquement s'est également fait ressentir dans la campagne menée par les alliés visant à persuader les Allemands que le débarquement aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Vous savez, la fameuse opération d'intoxication qu'on a appelée Fortitude. Par exemple, un QG imaginaire entouré de chars gonflables, etc. a été mis sur pied dans le Kent, hein, en face du Pas-de-Calais, pour duper la reconnaissance aérienne allemande. Et l'on était capable, simultanément, d'intercepter tous les messages relatifs à l'organisation de la défense allemande dans le nord-ouest de la France. Non seulement on dupait les Allemands grâce à cette opération Fortitude de très 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 grande envergure, mais simultanément on était capable de voir exactement comment ça réagissait du côté allemand, ce qu'ils en pensaient, etc. À l'époque, évidemment, inutile de vous dire que tout ça doit rester un archi-secret. Après la victoire de 1945, on ira jusqu'à brûler tous les papiers compromettants et à détruire l'intégralité du matériel de Bletchley Park. Les Britanniques ne veulent pas que les connaissances en cryptanalyse qu'ils ont acquises pendant le cours de la Seconde Guerre mondiale tombent entre des mains, notamment entre les mains soviétiques, pour parler clairement. Turing va devenir officier de l'Empire britannique. Il continue d'ailleurs ses travaux après la guerre. Sauf que Turing, et ça on le voit aussi évidemment dans ce film, Turing va connaître de graves déboires liés à sa vie privée. Il était homosexuel, alors on lui connaît un certain nombre de relations, et il a fréquenté dans les années 50 un certain Arnold Murray qui lui a volé de l'argent. À la suite du cambriolage, Turing va déposer plainte au commissariat. Sauf que ça veut dire enquête, que dans le cadre de l'enquête, on se rend compte que les deux hommes avaient une relation et que, il ne faut pas l'oublier, l'homosexualité à l'époque est un délit en Grande-Bretagne. Le domicile de Turing sera perquisitionné, il sera obligé de reconnaître son homosexualité et d'affronter un procès en 1952. Ça va être terrible. Alors, comme il est quand même un héros de guerre, on lui octroie la liberté conditionnelle, mais avec un traitement, une castration chimique qui va bien sûr avoir des conséquences terribles sur lui et qui vont lui donner des envies de suicide. Il est complètement déprimé, il tombe en dépression et en juin 1954, à seulement 41 ans, il sera retrouvé mort dans sa chambre. Je vous signale quand même qu'il a fallu attendre le 24 décembre 2013 pour que la reine d'Angleterre annule cette condamnation de Turing pour indécence grave et turpitude morale. Voilà l'intitulé même de sa condamnation. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est la façon dont Turing s'est suicidé, parce que vous allez voir que ça a des conséquences totalement inattendues. Il avait vu un film qu'il adorait, c'était le Blanche-Neige de Walt Disney, Blanche-Neige et les Sept Nains, qu'il avait vu 6 ou 7 fois. Et il va lui-même enduire une pomme de cyanure et il va croquer dans cette pomme, un peu comme dans Blanche-Neige, et c'est la façon dont il choisit de perdre la vie. Eh bien, figurez-vous que c'est pour cette raison même que l'entreprise Apple, je pense à Steve Jobs et à Steve Wozniak, bien entendu, quand ils ont créé Apple, c'est par référence à Alan Turing et à ce suicide qu'ils vont choisir la pomme entamée comme symbole de la très célèbre marque d'informatique. Vous voyez finalement que le père de l'ordinateur aura laissé sa marque jusque sur notre matériel le plus récent et le plus sophistiqué. Bonjour François Kersaudy.
Bonjour.
Dans un instant avec vous, on va revenir un petit moment sur cette affaire d'Enigma. Et puis surtout, nous allons parler du grand patron des opérations britanniques. On a célébré le 50e anniversaire de son enterrement. Enfin non, son enterrement, c'est après-demain l'anniversaire. Et c'était bien sûr Winston Churchill.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Winston Churchill, avec votre invité François Kersaudy, historien, ancien professeur à l'Université Paris 1, auteur de Winston Churchill aux éditions Talendier. Et juste avant, vous revenez un petit peu, je crois, sur notre Alan Turing.
Oui, ça va de pair d'ailleurs, parce qu'évidemment, si le haut état-major allié a pu bénéficier d'extraordinaires renseignements à partir du milieu de la guerre à peu près, c'est parce que les ingénieurs de Bletchley Park avaient réussi à percer le code Enigma. Churchill a bel et bien dit qu'Alan Turing avait apporté la plus grande contribution individuelle à la victoire des Alliés, François Kersaudy.
Oui, il a dit cela et je crois qu'il avait raison, mais c'est toute son équipe. Enfin, il y avait des dizaines et des dizaines de mathématiciens, il y avait ce qui se faisait de plus remarquable parmi les mathématiciens anglais, et pas seulement, d'ailleurs du Commonwealth aussi, qui étaient rassemblés dans ce Bletchley Park. C'était une gigantesque entreprise. Alan Turing était un des grands cerveaux, mais...
Il y avait une concentration, vous me disiez là pendant l'interruption, qu'il y avait une concentration de matière grise invraisemblable.
La plus grosse concentration de matière grise
de toute l'histoire.
Et la plus grosse concentration d'originaux aussi, d'excentriques, à tel point que...
Ils étaient bizarres.
Ils étaient très bizarres, et à tel point que Bletchley Park était très bien gardé, mais les soldats et en particulier les officiers qui étaient chargés de garder Bletchley Park avaient reçu une instruction officielle « Quoi qu'il arrive, ne vous étonnez de rien ». Il y en a qui se promenaient en pyjama dans le parc à midi. Enfin, il y avait
du genre, ce sont des farfelus, mais laissez-les faire, ils vont nous être utiles. Et de fait, ils l'ont été utiles, car les renseignements qu'on apporte à l'état-major, à partir de quand 1942, ça devient très très efficace.
C'est déjà efficace à l'été de 1940, mais seulement c'est partiel. Ça commence à devenir vraiment totalement fiable à partir de 1942. C'est ce qui permet certaines des plus grandes victoires comme El Alamein, etc. Enfin, les grands responsables sur les théâtres d'opération agissait en fonction des messages qu'il recevait. Seulement, il fallait les protéger. Et ça, c'est la contribution de Churchill. Il y a deux contributions de Churchill. La première, c'est qu'il faut donner une importance absolue à ce projet. Au départ, il appelait ça Boniface. Après, c'est devenu Ultra. Et il en avait besoin.
Combien y avait-il de personnes dans le secret? Dans le secret d'Enigma, et combien de personnes?
Ça dépend à quel moment. Ça dépend à quel moment. Au début, il y en avait très très peu. Il y en avait peut-être une vingtaine à tout casser. Il y avait l'état-major, il y avait les sous-chefs d'état-major, il y avait quelques, il y avait Hayden, il y avait en tout une petite vingtaine. Après, on a été obligé, pour des raisons évidentes, de partager cela avec les commandants en opération, parce que sinon, ils ne prenaient pas les nouvelles au sérieux. Et donc, mais d'un autre côté, il fallait pas non plus dévoiler la chose. Churchill, dès l'été de 1940 et en particulier l'automne, il en recevait et il voulait les recevoir, ce qu'il appelait raw, cru. C'est-à-dire
tel quel,
hein. Ce qui était d'ailleurs pas forcément très malin parce que sans interprétation, c'était pas toujours très compréhensible. Mais enfin bon, lui il voulait de l'authentique et les plus importants en premier. Et il appelait cela ses Boniface. Alors on lui amenait dans une serviette fermée à clé,
cadenassée,
verrouillée, etc. Et il appelait ça à Boniface la poule qui pond des œufs en or et qui ne caquette jamais. Et tous ses efforts ont été orientés vers le fait de que ça ne soit pas connu, que les Allemands ne le sachent pas.
Le caquetage n'a jamais été trahi, c'est le moins qu'on puisse dire.
Ça n'a jamais été trahi.
Et après la guerre, Et après la guerre, on détruit carrément ce qui aurait permis.
Oui, et il est interdit d'en faire mention. Si vous regardez même les mémoires de Churchill, il y a quelques perfides allusions. Mais que seuls des initiés pouvaient comprendre. C'est décrypté. Il était interdit d'en parler. Par contre, moi, j'avais vu une chose dans les archives allemandes qui m'avait amusé, puisque c'était avant qu'on révèle Enigma, puisqu'il a fallu attendre le milieu des années 70 pour qu'on consente à parler d'Enigma. Mais avant cela, vous pouvez le revoir, d'ailleurs, dans le journal de la Kriegsmarine, vous avez l'amiral Dönitz qui écrit à un moment, en 1943, c'est curieux, on a l'impression que quelqu'un regarde par-dessus notre épaule.
Ah,
et à l'époque où j'ai lu, je connaissais pas du tout encore l'affaire
Enigma. Ouais.
Et il se doutait de quelque chose, mais il voyait pas d'où ça pouvait venir.
Et comment expliquer que les Allemands, qui dans les années 30 avaient mis tant d'énergie et tant de moyens à perfectionner encore une machine pourtant déjà très très sophistiquée, comment expliquer que les Allemands qui jusqu'à la fin de 1938 vont multiplier les combinaisons s'arrêtent à un certain niveau et décide de ne plus perfectionner la machine?
C'est pour la raison que vous avez dite, c'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils étaient arrivés à un tel point de sophistication que ce serait totalement indéchiffrable. Oui. Et ils n'avaient pas l'ordinateur, ils ne savaient pas ce que c'était. Et donc, pour eux, des milliards de milliards de milliards de combinaisons, alors, si on avait demandé à des savants, peut-être qu'ils auraient dit quelque chose, mais on ne leur a pas demandé.
Et du côté japonais,
Du côté japonais, c'était encore plus beau, parce que les Japonais ont été fascinés par cette machine. Mais en plus, alors, il y a ce commentaire d'un général, même s'ils arrivaient à le décrypter, ces Occidentaux sont tellement idiots que, comme c'est en japonais, comprendront pas. Alors ça, évidemment, c'était pas très malin et ça a coûté la vie à l'amiral Yamamoto, donc qui a été abattu parce qu'on a décrypté justement l'heure de son passage à Bougainville et il a été abattu.
Oui. Ce dont on prend conscience à mesure qu'on étudie la vie du grand état-major allié, c'est la qualité inouïe des collaborateurs de Churchill dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on avait à tout niveau les meilleurs géographes, les meilleurs agents de renseignement, les meilleurs stratèges, et puis ensuite sur place, les meilleurs pilotes, etc. etc. D'où vient cette incroyable réunion de talents?
Ça vient déjà d'une fait que quand ils n'étaient pas bons, on s'en débarrassait. C'est-à-dire qu'on avait eu tout le temps, depuis la déclaration de guerre et même un peu avant, de voir qui faisait l'affaire et qui ne la faisait pas. Et
là, on ne fait pas de sentiments en temps de guerre.
Non, on ne fait pas de sentiments. Et je dirais même à l'inverse, jusqu'en juin 1940, tous ceux qui avaient échoué, il y en avait quelques-uns, on leur a discrètement montré la porte. Et on a fait monter des gens supérieurs à tous les niveaux, au chef chefs d'état-major, les généraux, on a enlevé les mauvais généraux et on a mis des gens comme Montgomery, comme Brooke, comme Alexander, qui étaient des artistes dans leur profession.
À ce régime-là, pardon, je vais être volontairement un peu provocateur, mais à ce régime-là, on aurait dû supprimer Winston Churchill lui-même, parce que nous n'allons pas parler de sa vie aujourd'hui, on va se concentrer sur cette période de la Seconde Guerre mondiale et sur le chef de guerre, en quelque sorte. On est avec lui dans le cabinet souterrain de Londres. Mais il faut quand même reconnaître qu'au cours d'une très très longue carrière, fort riche en vicissitudes, il n'avait fait lui-même qu'accumuler les échecs tout de même. Comment cet homme devient-il l'homme de la réussite après tant d'échecs ?
Alors je vais vous dire, il y a eu aussi énormément de réussites. Il y a largement plus de réussites que d'échecs.
L'ensemble de sa vie.
Oui, la plupart des échecs qu'on lui a attribués, soit c'était pas de lui, soit ça l'était, mais pour des raisons qui ne dépendaient pas de lui. Il faut voir qu'avant d'arriver au poste de Premier ministre, Churchill est un subordonné. Il n'a jamais eu le pouvoir suprême. Donc, tout ce qu'il a fait, il l'a fait sous les ordres de personnes qui, elles, n'y connaissaient rien. Il faut voir, pendant la Première Guerre mondiale, il y avait une extraordinaire accumulation de civils qui conduisaient la guerre et qui étaient totalement ignares dans le domaine de la guerre. En particulier, des gens comme Asquith, le Premier ministre, qui avait la mauvaise habitude d'écrire des lettres à sa maîtresse pendant les cabinets de guerre. Il y avait même un ministre de la guerre, il s'appelait Lord Kitchener, qui avait atteint, en tant que ministre de la guerre, son plus haut niveau d'incompétence. C'était un beau sabreur, il avait fait des miracles au Soudan contre les indigènes, c'est vrai, ou en Afrique du Sud, mais en tant que ministre de la guerre, il était catastrophique. Donc Churchill devait essayer de concilier tout cela, et les échecs qu'on lui a attribués, en fait...
étaient un peu les échecs des autres, c'est ce que vous êtes en train de me dire.
Oui, il a servi de bouc émissaire. Oui, Par contre, quand il est revenu, et donc c'est pour ça qu'il est allé en France pour se battre avec nous, en fait, dans les tranchées, mais quand il est revenu et qu'il a été quand même, en 1917, nommé ministre des armements, il a eu des succès absolument fabuleux. C'est là qu'on a vu ce que c'était que l'organisateur Churchill et le propagandiste Churchill.
Alors, vous venez
c'était un génie.
Vous venez de donner deux des clés de ce tempérament hors du commun. C'est un organisateur et c'est un propagandiste.
Ce sont ces deux premières qualités. Alors, il y en a d'autres.
D'abord l'organisateur.
Alors, l'organisateur, c'est fabuleux. C'est quelqu'un qui sait accumuler des quantités de renseignements invraisemblables. Il a une mémoire effrayante. Il lit un livre une fois, il s'en souvient pendant 50 ans. Donc il connaît tout par... tout ce qu'il lit, il le connaît par cœur. C'est la mémoire de son père, mais c'est effarant. Et une fois qu'il a réuni cette quantité de documents et qu'il les garde dans son cerveau, eh bien, ça malaxe et comme il a une imagination très fertile, et il va traduire ça en ordre. Et à la différence de son principal concurrent en 1940, c'est-à-dire Hitler, il veut aussi s'assurer qu'ils ont été exécutés. Hitler donnait des ordres et après, il était incapable de savoir s'ils étaient exécutés ou pas. En général, ça ne l'était pas ou ça ne l'était pas comme il aurait voulu, parfois heureusement d'ailleurs. Churchill, non. Churchill, c'était non seulement il donnait un ordre, mais le lendemain, ceux qui avaient reçu l'ordre avaient droit à un petit papier rouge où il y avait écrit « Action this day » et il y avait en dessous « Veuillez me faire savoir en quoi la situation s'est améliorée depuis mon instruction d'hier ». Vous voyez, alors, quand vous recevez un truc comme ça, évidemment...
Et ça, tous les jours.
Ça motive tous les jours, oui. Donc ça les usait prématurément. Mais en même temps, ça faisait qu'ils étaient très zélés dans l'exécution de leurs tâches. Donc voilà, ça c'est déjà le début de Churchill.
Un sens de l'organigramme, de la répartition des responsabilités
Oui. Il savait déléguer, il ne faisait pas tout lui-même, il savait très bien déléguer, il savait à qui il fallait déléguer. S'il n'y avait pas de résultat, il se débarrassait des personnages. Et en même temps... Il était extraordinairement bien entouré. Je vous en reparlerai tout à l'heure quand on parlera de ses défauts. Mais il avait justement des mathématiciens qui lui montraient tout en organigramme, notamment le professeur Lindemann. C'était des gens qui avaient un très haut niveau de mathématiques. Hein, Tizard, Lindemann, tout ça, c'était quand même Bernal. C'était des gens qui étaient quand même au très haut niveau dans leur profession et qui arrivaient à lui traduire des choses complexes en moins d'une page pour qu'il comprenne. Alors, et une fois qu'il avait avait compris, eh bien, il donnait des ordres pour qu'on agisse sur ce qui avait été présenté.
On aura compris que nous sommes vraiment en face d'un homme d'action, ce qui, nous le verrons tout à l'heure, n'exclut évidemment pas du tout la réflexion. Ça, c'était pour le côté organisateur. Vous nous parlez d'un propagandiste, nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Winston Churchill, chef de guerre, est au cœur de l'histoire cet après-midi. Vous nous en parlez, Franck Ferrand, avec votre invité, l'historien François Kersaudy, auteur entre autres de De Gaulle et Churchill, rééditant en format poche dans la collection Tempus chez Perrin.
Alors François Kersaudy, vous nous parlez d'un propagandiste. C'est un homme qui est déjà doué dans ce qu'on appelle nous la communication.
Oui, il a inventé la communication avant les autres. Déjà pendant la Première Guerre mondiale, il avait le génie de faire des discours aux ouvriers des productions militaires qui avaient une tendance regrettable à se mettre en grève toutes les 5 minutes, ce qui était embêtant en 17 et en 18. Et après des discours de Churchill, ils étaient tellement motivés qu'ils faisaient des grandes manifestations pour qu'on interdise la pause du thé, pour qu'ils puissent travailler plus longtemps. Alors des Anglais qui manifestent pour supprimer la pause du thé, il fallait vraiment quelqu'un de très très motivant pour arriver à une chose pareille.
Ça, c'était l'homme politique s'adressant à ses propres ouailles, si je puis dire. On va l'entendre s'adressant au début de la guerre aux Français eux-mêmes. On connaît ce document. Vous allez reconnaître évidemment la voix de Churchill et surtout son accent.
Ici Londres. Le Premier ministre, M. Winston Churchill, parle aux Français.
Français, c'est moi, Churchill, qui vous parle. Ici, dans cette ville de Londres, que Air Hitler prétend réduire en cendres et que ses avions bombardent en ce moment, nos gens tiennent bon. Notre Royal Air Force a fait plus que de tenir tête à l'ennemi. Nous attendons l'invasion, promise souvent. Et de longue date, les poissons aussi. Ici, chez nous, en Angleterre, sous le feu du Bosch.
Les poissons aussi, la formule est... Les poissons aussi, avec cet accent à couper au couteau. Mais est-ce qu'on peut dire que ces discours de Churchill aux Français ont eu un impact à l'époque ?
Beaucoup l'ont entendu, beaucoup l'ont entendu, ça les a frappés. Il y a énormément de gens qui, des années après la guerre, se souvenaient de ce discours, bien avant qu'on le ressorte.
D'ailleurs, il y avait un lien très particulier, il faut le dire, entre Churchill et la France.
Oh, oui.
Il ne faut pas oublier qu'en 1940, ce qu'il propose au général de Gaulle, sous-secrétaire d'État à la guerre, qui lui a été envoyé par le dernier gouvernement de la Troisième République, est extraordinaire. C'est tout simplement la fusion entre la France et l'Angleterre.
Oui, ça, c'est une idée de Jean Monnet à laquelle ni Churchill ni De Gaulle ne croit, mais il le propose quand même parce que c'est un moyen d'étoffer un petit peu, d'encourager le gouvernement français parce qu'on se doute qu'ils vont capituler. Mais ils n'y croient pas une seconde.
Oui. Alors, revenons à ce propagandiste, en quelque sorte. Quelles sont les idées de communication que les alliés doivent directement à Churchill? Qu'est-ce qu'on lui doit dans cette Seconde Guerre mondiale?
Mais on lui doit d'abord le génie de la phrase, c'est-à-dire qu'il sait, il a une imagination très fertile et il sait présenter les choses de telle façon que l'on garde le moral, même quand les choses vont très mal. Et en même temps, ne pas cacher que ça va être dur, mais cacher par contre quand il y a des choses qui ne vont pas du tout, on tempère un petit peu. Mais le génie, c'est de présenter des symboles. Et c'est le cas, par exemple, pour le général de Gaulle. La France est vaincue, ça pourrait être une atteinte fatale au moral du peuple anglais. Eh bien, Churchill, avec son imagination fertile et son sens du symbole, présente de Gaulle aux Anglais, hein, en leur disant, vous voyez, vous pensez comme ça que la France est vaincue, mais c'est pas vrai. Car la France continue la guerre en la personne du général de Gaulle, hein,
C'est mettre en avant des symboles comme ça.
Voilà. La France est avec nous, avec ce général qui a une voix, qui a un nom, qui a une bonne réputation, etc. Et donc, la France est encore à nos côtés.
Et lui-même est une figure extrêmement rassurante. Je pense à deux films. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je pense à ça. Mais vous savez, la figure de Charles Laughton dans le film qui s'appelle Témoin à charge, ou la figure de Rému dans Les assassins dans la maison, c'est-à-dire ces espèces de figures qui arrivent un petit peu au dernier moment, mais qui ont un tel poids et tout simplement un tel caractère qu'on sait qu'on peut leur faire confiance. Est-ce que le secret, la botte ultime, si je puis dire, de Churchill, ça n'est pas son caractère en
Oui, c'est son caractère et c'est sa réputation. C'est-à-dire qu'on sait depuis la première guerre, on sait depuis l'entre-deux-guerres, que c'est le seul civil qui connaît la guerre, qui ne craint pas la guerre, qui aime la guerre, et bien qu'il n'est pas belliciste, mais il est belliqueux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Alors il fait tout pour éviter la guerre, voilà. Mais une fois qu'elle est déclarée, il faut la gagner.
Donc, là, un petit côté Clémenceau de ce point de vue. Hein.
Oui, d'ailleurs Clémenceau est un de ces... D'ailleurs c'est curieux parce que parmi ces grandes idoles, il y a trois Français. Il y a Napoléon, il avait son buste dans son bureau, il y a Clémenceau, et encore plus extraordinaire pour un Anglais, il y a Jeanne d'Arc.
Napoléon et Jeanne d'Arc dans le bureau du Premier ministre britannique, c'est quand même un peu inouï.
Oui, ça a étonné un petit peu, mais c'était comme ça. Donc, il y a ce génie de la propagande, il y a cette aptitude à donner des ordres et à les faire exécuter. C'est d'ailleurs lui, vous savez, il disait « All I ask for is compliance with my wishes after reasonable discussions ». Tout ce que je demande, c'est qu'on se plie à ma volonté après un temps de discussion raisonnable. Oui, il ne demandait pas grand-chose, il demandait que ça. Hein. Et donc, il y a ça, et puis il y a l'imagination. Vous savez, Roosevelt disait de lui « Churchill a 200 idées par jour, dont 4 seulement sont bonnes ».
Mais comme disent nos
lesquelles.
Auditrices, il fallait quand même du monde
lesquelles.
Pour les trier, toutes
donc, il fallait
ces
quelqu'un
idées.
Pour faire le tri. Oui. Donc, et heureusement, il était bien entouré parce que s'il n'avait pas été, là il faut arriver au défaut du grand homme. En tant que stratège, il n'a pas été formé pour ça. C'est un sous-lieutenant de cavalerie au départ. Hein. Donc, il a été formé comme sous-lieutenant de cavalerie. Donc, on ne leur faisait pas étudier la stratégie. Donc, il a dû réinventer.
C'est un civil, vous l'avez dit clairement.
Hein. Non, il a été militaire. Il a été formé, il a participé à 5 campagnes. Donc, il a été quand même militaire, mais c'était au 19e siècle. Et au tout début du 20e, il s'est un petit peu dépassé. Et puis surtout, il n'avait pas été à l'époque jugé assez intelligent, ce qui est étonnant, pour être initié au secret de la stratégie. Donc il a fallu qu'il la réinvente. Alors ça pouvait être génial, ça pouvait être catastrophique, et ça, si vous voulez, on va reparler parce que c'est impressionnant. Pendant la Première Guerre mondiale, il avait des idées géniales. Pendant la Deuxième aussi, sauf qu'il y avait beaucoup d'idées géniales qui étaient impraticables et qui auraient été potentiellement catastrophiques. Et c'est là qu'intervient l'entourage. Et il faut parler de l'entourage.
Il faut arriver à le freiner, c'est ça
Oui. Lui,
qui est-il composé
Une très belle voiture de sport, mais sans frein. Donc c'est embêtant.
Qui est autour de lui
Justement. Alors, autour de lui, vous avez des gens qui sont beaucoup moins inspirés, mais qui sont beaucoup plus pondérés. Alors, vous me direz, il les a choisis par élimination. Et donc, du côté des diplomates, vous avez des gens... du côté de civils, si vous voulez, vous avez des gens comme Attlee, qui font partie du gouvernement de coalition, bien sûr. Attlee, Bevin, qui s'occupe un petit peu de la politique intérieure. Et vous avez un fabuleux diplomate qui est Anthony Eden. Vous avez Macmillan. Tous ces gens-là, Duff Cooper, tous ces gens-là connaissent leur parti... et sont capables de freiner Churchill quand il a des idées un petit peu biscornues, quand il bat la campagne. Du côté militaire, là encore, bon, vous me direz, c'est lui qui les a choisis, mais il y a des chefs d'état-major qui sont au sommet de leur art. Hein, le maréchal Alan Brooke, qui est le chef d'état-major de l'armée, le maréchal de l'air Portal, qui est le chef d'état-major de la marine, de l'aviation, et puis vous avez, chez les marins, vous avez Cunningham, vous avez Pound, tout ça...
Toute une bande de poissons pilotes autour du grand requin, un peu. Hein.
Alors, pilote, c'est le cas. C'est aussi barrière. Parce que quand il bat la campagne, ce qui lui arrive quand même assez souvent, ces gens qui sont des durs quand même arrivent à lui dire « Ah non, Winston, vous ne pouvez pas faire ça. Parce que si vous faites ça, on démissionne et on explique au Parlement et au roi pourquoi. » Et les dieux de Churchill, Churchill ne reconnaissait que deux dieux au-dessus de lui. C'était le Parlement, le bon dieu, mais ça, c'était pas gênant. Il y avait le Parlement et il y avait le roi. Et quand cela avait parlé, Churchill s'exécutait. Et par conséquent...
En bon Marlborough qu'il était.
Oui, absolument. Oui, oui. Et donc, ces gens-là pouvaient jouer là-dessus pour le dissuader de certaines de ses idées les plus farfelues, comme par exemple d'envahir la Norvège.
Déclarer la guerre au Brésil. Est-ce qu'on peut mettre ce genre de choses sur le compte de l'âge, parce que c'était quand même un vieux monsieur? Non.
Non, parce que
lucide,
c'est ça qui est extraordinaire chez Churchill. Entre 65 et 70 ans, non seulement il n'avait rien perdu de son cerveau de 20 ans, mais en plus il s'était encore amélioré. Donc ça, on ne peut pas le mettre sur le compte de l'âge, ni sur le compte des cigares, ni même sur le compte de l'alcool, parce que c'est quelqu'un qui était confit dans l'alcool du soir au matin, mais qui n'était jamais sous.
Il faisait beaucoup de siestes, dit-on.
Une heure de sieste, mais ça lui permettait de tenir le coup jusqu'à 4 heures du matin.
Alors tout ça, c'est bien gentil, si je puis dire, mais il y a, il faut le savoir, de grands adversaires de Churchill aujourd'hui encore, et je me rappelle ce livre qui était paru, qui s'appelle Das Brandt, hein, ce livre qui était paru en Allemagne il y a quelques années, on en avait parlé ensemble à ce même micro d'ailleurs, L'incendie en français, qui accuse littéralement Churchill d'avoir ravagé l'Allemagne à la fin de la guerre de façon gratuite d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut lui reprocher ce genre de d'exaction?
Non, absolument pas. D'abord, il aurait fallu faire la même chose avec Roosevelt, parce qu'ils étaient alliés dans cette histoire et il y avait autant,
oui,
voire plus, d'avions américains que d'avions anglais.
Et qui bombardaient encore plus large, oui.
Et qui bombardaient plus. Hein. Bon, donc il y a ça. Et d'autre part, ni Churchill ni Roosevelt ne s'occupaient des cibles. Il y avait un comité qui était fait pour ça, un comité anglo-américain qui s'appelait le Target Committee, et qui, lui, choisissait les cibles. Et donc, c'était vraiment dans des cas très exceptionnels, notamment à la demande des Soviétiques, qu'on prenait une cible plus qu'une autre. Mais qu'ils aient ravagé l'Allemagne, ça, c'était un petit peu le but de l'opération, ça, oui, c'est évidemment.
Vous me disiez tout à l'heure, hors antenne, François Kersaudy, que Churchill avait tellement de volonté qu'il était allé jusqu'à choisir la date de sa mort. Est-ce qu'on peut dire cela ?
Oui, oui, c'est exact. Quand il est tombé dans le coma au tout début de janvier 65, donc...
Il y a 50 ans, donc.
Alors, il y avait un comité qui était chargé depuis 15 ans de ses obsèques, mais les obsèques n'arrivaient pas, et les gens du comité, comme ils n'étaient pas tout jeunes, ils mouraient les uns après les autres. Donc, c'était eux qui mouraient, donc il fallait les remplacer à chaque fois par des hommes plus jeunes, et ça n'arrivait jamais. Et donc, par contre, au début de 65, il a eu un accident vasculaire cérébral un peu plus grave que les autres, parce qu'il a collectionné les accidents vasculaires cérébraux, les pneumonies doubles avec extrême onction, les attaques cardiaques. Et donc, là vraiment, bon. Et l'amiral Mountbatten, qui était chargé à ce moment-là des obsèques futures, est allé voir le secrétaire de Churchill, il dit « Alors, c'est pour maintenant, on peut y aller ?» Il dit « Non, ne t'inquiète pas, Dickie, c'est encore dans 3 semaines, c'est pour le 24. Ah, » Comment pour le 24 ?« Oui, c'est pour le 24, parce que Winston a toujours dit qu'il mourrait le jour anniversaire de son père, et je pense que c'est exactement le jour anniversaire de la mort de son père, et je pense que c'est exactement ce qu'il a l'intention de faire. »
Et de fait,
donc Mountbatten, qui était un petit peu surpris, a dit « Bon, ben, on va planifier pour ça, mais enfin, il ne croyait pas beaucoup. » Et de fait, effectivement, le 24, à 8 heures, donc exactement 70 ans, jour pour jour, heure pour heure, après la mort de son père, et il est mort lui-même, voilà.
Extraordinaire. Je rappelle, François Kersaudy, que votre magnifique biographie de Winston Churchill, biographie augmentée, va paraître là, chez Talendier, dès le mois de février. Et puis en attendant, on peut toujours relire en collection Tempus votre De Gaulle et Churchill. Merci beaucoup.
Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Yann sur les origines des emblèmes du Parti communiste.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Yann. Il nous l'a envoyé via la page Facebook de l'émission. Il aimerait connaître les origines des emblèmes du Parti communiste.
Alors d'abord, le drapeau rouge et cette couleur rouge. Hein. Vous savez, autrefois, le drapeau rouge servait, quand je dis autrefois, depuis le Moyen-Âge, ça servait, c'était un symbole d'ordre. Lorsqu'il y avait des manifestations, si je puis dire, etc., hop, si les autorités agitaient le drapeau rouge, ça voulait dire dispersion, rentrez chez vous. Et lors de la célèbre manifestation du 17 juillet 1791, au Champ de Mars, c'est que le peuple s'est réuni spontanément pour demander la destitution de Louis XVI. On était très peu de temps après la fuite à Varennes. Et les autorités ont sorti le drapeau rouge. Seulement, il y a eu insurrection. Des coups de feu ont été tirés. On a quand même relevé 50 morts. Et dès lors, le drapeau rouge, qui était trempé encore du sang des martyrs, ce drapeau rouge est devenu un symbole d'opposition à la répression. Et ça a ensuite été développé. Rappelez-vous, la Commune de Paris, etc. Le drapeau rouge était définitivement adopté d'une certaine manière. Alors pour ce qui est de la faucille et du marteau, bah la faucille c'était le symbole des paysans bien entendu, et le marteau le symbole des ouvriers, tout simplement, et ça figure sur le drapeau communiste depuis 1922. Il faut savoir qu'il y avait une variante en Allemagne de l'Est, vous savez, la faucille était remplacée par le compas pour mettre l'accent sur les sciences. Je vous signale que depuis 2013 seulement, ces insignes, ces symboles ne figurent plus sur les cartes d'adhérents du Parti communiste français, et il y a des pays où on va encore plus loin, puisque en Hongrie, en Lituanie, en Pologne, etc., c'est considéré comme un symbole de totalitarisme, et c'est donc des symboles qui sont aujourd'hui interdits.